Un prince de la Bohème, deuxième partie. La marquise, trop pensive pour rire, dit à Nathan un « Continuez !» qui lui prouva combien elle était frappée de ses étrangetés, combien surtout la palferine la préoccupait. Parmi tous les auteurs dramatiques de Paris, un des mieux posés, des plus rangés, des plus entendus, était, en 1829, Du Bruel, dont le nom est inconnu du public. Il s'appelle De Curcy sur les affiches. Sous la Restauration, il avait une place de chef de bureau dans un ministère. Attaché de cœur à la branche aînée, il donna bravement sa démission et fit depuis ce temps deux fois plus de pièces de théâtre pour compenser le déficit que sa belle conduite occasionnait dans son budget des recettes. Du Bruel avait alors 40 ans. Sa vie vous est connue. À l'exemple de quelques auteurs, il portait à une femme de théâtre une de ces affections qui ne s'expliquent pas, et qui cependant existent au vu et au su du monde littéraire. Cette femme, vous le savez, est Tullia, l'un des anciens premiers sujets de l'Académie royale de musique. Tullia n'est pour elle qu'un surnom, comme celui de Curcy pour Du Bruel. Pendant 10 ans, de 1817 à 1827, cette fille a brillé sur les illustres planches de l'opéra. Plus belle que savante, médiocre sujet, mais un peu plus spirituelle que ne le sont les danseuses, elle ne donna pas dans la réforme vertueuse qui perdit le corps de ballet. Elle continua la dynastie des Guimard. Aussi dut-elle son ascendant à plusieurs protecteurs connus, au duc de Rhétoré, fils du duc de Chaulieu, à l'influence d'un célèbre directeur des Beaux-Arts, à des diplomates, à de riches étrangers. Elle eut, durant son apogée, un petit hôtel rue Chauchat, et vécut comme vivaient les anciennes nymphes de l'opéra. Du Bruel s'amouracha d'elle au déclin de la passion du duc de Rhétoré, vers 1823. Simple sous-chef, Du Bruel souffrit le directeur des Beaux-Arts. Il se croyait le préféré. Cette liaison devint, au bout de 6 ans, un quasi-mariage. Tullia cache soigneusement sa famille, on sait vaguement qu'elle est de Nanterre. Un de ses oncles, jadis simple charpentier ou maçon, grâce à ses recommandations et à de généreux prêts, est devenu, dit-on, un riche entrepreneur de bâtiment. Cette indiscrétion a été commise par Du Bruel. Il dit un jour que Tullia recueillerait tôt ou tard une belle succession. L'entrepreneur, qui n'est pas marié, se sent un faible pour sa nièce, à laquelle il a des obligations. « C'est un homme qui n'a pas assez d'esprit pour être ingrat, » disait-elle. En 1829, Tullia se mit d'elle-même à la retraite. À 30 ans, elle se voyait un peu grasse, elle avait essayé vainement la pantomime, elle ne savait rien que se donner assez de ballons pour bien enlever sa jupe, en pirouettant, à la manière des noblés, et se montrer quasi nue au parterre. Le vieux Vestry lui dit, dès l'abord, que ce temps bien exécuté, quand une danseuse était d'une belle nudité, valait tous les talents imaginables. C'est lutte de poitrine de la danse. Aussi, disait-il, les illustres danseuses, Camargo, Guimard, Taglioni, toutes maigres, brunes et laides, ne peuvent s'en tirer que par du génie. Devant de plus jeunes sujets, plus habiles qu'elle, Tullia se retira dans toute sa gloire, et fit bien. Danseuse aristocratique, ayant peu dérogé dans ses liaisons, elle ne voulut pas tremper ses chevilles dans le gâchis de juillet. Insolente et belle, Claudine avait de beaux souvenirs, et peu d'argent, mais les plus magnifiques bijoux, et l'un des plus beaux mobiliers de Paris. En quittant l'opéra, la fille célèbre, aujourd'hui presque oubliée, n'eut plus qu'une idée, elle voulut se faire épouser par Du Bruel. Et vous comprenez qu'elle est aujourd'hui Madame Du Bruel, mais sans que ce mariage ait été déclaré. Comment ces sortes de femmes se font épouser après 7 ou 8 ans d'intimité? Quels ressorts elles poussent? Quelles machines elles mettent en mouvement? Si comique que puisse être ce drame intérieur, ce n'est pas notre sujet. Du Bruel est marié secrètement, le fait est accompli. Avant son mariage, Curcy passait pour un joyeux compagnon. Il ne rentrait pas toujours chez lui. Sa vie était quelque peu bohémienne. Il se laissait aller à une partie, à un souper. Il sortait très bien pour se rendre à une répétition de l'opéra comique, et se trouvait, sans savoir comment, à Dieppe, à Baden, à Saint-Germain. Il donnait à dîner, il menait la vie puissante et dépensière des auteurs, des journalistes et des artistes. Il levait très bien ses droits d'auteur dans toutes les coulisses de Paris. Il faisait partie de notre société. Finot, Lousteau, Du Tillet, Desroches, Bixiou, Blondet, Couture, Des Lupeaux le supportaient, malgré son air pédant et sa lourde attitude de bureaucrate. Mais une fois marié, Tullia rendit Du Bruel esclave. Que voulez-vous? Le pauvre diable aimait Tullia. Tullia venait, disait-elle, de quitter le théâtre pour être tout à lui, pour devenir une bonne et charmante femme. Tullia sut se faire adopter par les femmes les plus jansénistes de la famille Du Bruel. Sans qu'on n'eût jamais compris ses intentions d'abord, elle allait s'ennuyer chez madame de Bonvalot. Elle faisait de riches cadeaux à la vieille et avare, madame de Chissé, sa grand-tante. Elle passa chez cette dame un été, ne manquant pas une seule messe. La danseuse se confessa, reçut l'absolution, communia, mais à la campagne, sous les yeux de la tante. Elle nous disait l'hiver suivant, « Comprenez-vous, j'aurai de vraies tantes !» Elle était si heureuse de devenir une bourgeoise, si heureuse d'abdiquer son indépendance, qu'elle trouva les moyens qui pouvaient la mener au but. Elle flattait ces vieilles gens. Elle a été tous les jours, à pied, tenir compagnie pendant 2 heures à la mère de Du Bruel pendant une maladie. Du Bruel était étourdi du déploiement de cette ruse à la Maintenon, et il admirait cette femme sans faire un seul retour sur lui-même. Il était déjà si bien ficelé qu'il ne sentait plus la ficelle. Claudine fit comprendre à Du Bruel que le système élastique du gouvernement bourgeois, de la royauté bourgeoise, de la cour bourgeoise, était le seul qui put permettre à une Tullia, devenue madame Du Bruel, de faire partie du monde où elle eut le bon sens de ne pas vouloir pénétrer. Elle se contenta d'être reçue chez mesdames de Bonvalot, de Chissé, chez madame Du Bruel, où elle posait, sans jamais se démentir, en femme sage, simple, vertueuse. Elle fut, 3 ans plus tard, reçue chez leurs amis. « Je ne peux pourtant pas me persuader que madame Du Bruel, la jeune, ait montré ses jambes et le reste à tout Paris, à la lueur de son bec de lumière, » disait naïvement madame Anselme Popineau. Juillet 1830 ressemble, sous ce rapport, à l'empire de Napoléon qui reçut à sa cour une ancienne femme de chambre, dans la personne de madame Garat, épouse du grand juge. L'ancienne danseuse avait rompu net, vous le devinez, avec toutes ses camarades. Elle ne reconnaissait, parmi ses anciennes connaissances, personne qui pût la compromettre. En se mariant, elle avait loué, rue de la Victoire, un tout petit charmant hôtel, entre cour et jardin, où elle fit des dépenses folles, et où s'engouffrèrent les plus belles choses de son mobilier et de celui de Du Bruel. Tout ce qui parut ordinaire ou commun fut vendu. Pour trouver des analogies au luxe qui scintillait chez elle, on doit remonter jusqu'aux beaux jours des Guimard, de Sophie Arnoux, des Duté, qui dévorèrent des fortunes princières. Jusqu'à quel point cette riche existence intérieure agissait-elle sur Du Bruel? La question délicate à poser est plus délicate à résoudre. Pour donner une idée des fantaisies de Tullia, qu'il me suffise de vous parler d'un détail. Le couvre-pied de son lit est en dentelle de point d'Angleterre. Il vaut 10 000 francs. Une actrice célèbre en eut un pareil. Claudine le sut. Dès lors, elle fit monter sur son lit un magnifique angora. Cette anecdote peint la femme. Dubruel n'osa pas dire un mot. Il eut ordre de propager ce défi de luxe porté à l'autre. Tullia tenait à ce présent du duc de Rhétoré. Mais un jour, 5 ans après son mariage, elle joua si bien avec son chat qu'elle déchira le couvre-pied, en tira des voiles, des volants, des garnitures, et le remplaça par un couvre-pied de bon sens, par un couvre-pied qui était un couvre-pied, et non une preuve de la démence particulière à ces femmes qui se vengent par un luxe insensé, comme a dit un journaliste, d'avoir vécu de pommes crues dans leur enfance. La journée où le couvre-pied fut mis en lambeaux marqua dans le ménage une ère nouvelle. Curcy se distingua par une féroce activité. Personne ne soupçonne à quoi Paris a dû le vaudeville, 18e siècle, à poudre, à mouche, qui se rua sur les théâtres. L'auteur de ces 1001 vaudevilles, desquels se sont tant plaints les feuilletonistes, est un vouloir formel de Madame Dubruel. Elle exigea de son mari l'acquisition de l'hôtel où elle avait fait tant de dépenses, où elle avait casé un mobilier de 500 000 francs. Pourquoi ? Jamais Tullia ne s'explique. Elle entend admirablement le souverain, parce que des femmes. « On s'est beaucoup moqué de Curcy, dit-elle. Mais en définitive, il a trouvé cette maison dans la boîte de rouge, dans la houppe à poudrer et les habits pailletés du 18e siècle. Sans moi, jamais il n'y aurait pensé, reprit-elle en s'enfonçant dans ses coussins au coin de son feu. Elle nous disait cette parole au retour d'une première représentation d'une pièce de Dubruel qui avait réussi et contre laquelle elle prévoyait une avalanche de feuilletons. Tullia recevait. Tous les lundis, elle donnait un thé. Sa société était aussi bien choisie qu'elle le pouvait. Elle ne négligeait rien pour rendre sa maison agréable. On y jouait la bouillotte dans un salon, on causait dans un autre. Quelquefois, dans le plus grand, dans un troisième salon, elle donnait des concerts, toujours courts, et auxquels elle n'admettait jamais que les plus éminents artistes. Elle avait tant de bon sens qu'elle arrivait au tact le plus exquis, qualité qui lui donna sans doute un grand ascendant sur Dubruel. Le vaudevilliste, d'ailleurs, l'aimait de cet amour que l'habitude finit par rendre indispensable à l'existence. Chaque jour met un fil de plus à cette trame forte, irrésistible, fine, dont le réseau tient les plus délicates velléités, enserre les plus fugitives passions, les réunit et garde un homme lié, pieds et poings, cœur et tête. Tullia connaissait bien Curcy. Elle savait où le blesser, elle savait comment le guérir. Pour tout observateur, même pour un homme qui se pique autant que moi d'un certain usage, tout est abîme dans ces sortes de passions. Les profondeurs sont là plus ténébreuses que partout ailleurs. Enfin, les endroits les plus éclairés ont aussi des teintes brouillées. Curcy, vieil auteur usé par la vie des coulisses, aimait ses aises. Il aimait la vie luxueuse, abondante, facile. Il était heureux d'être roi chez lui, de recevoir une partie des hommes littéraires dans un hôtel où éclatait un luxe royal, où brillaient les œuvres choisies de l'art moderne. Tullia laissait trôner Dubruel parmi cette gente, où se trouvaient des journalistes assez faciles à prendre et à embuquer. Grâce à ses soirées, à des prêts bien placés, Curcy n'était pas trop attaqué. Ses pièces réussissaient. Aussi, ne se serait-il pas séparé de Tullia pour un empire. Il eût fait bon marché d'une infidélité, peut-être à la condition de n'éprouver aucun retranchement dans ses jouissances accoutumées. Mais, chose étrange, Tullia ne lui causait aucune crainte en ce genre. On ne connaissait pas de fantaisie à l'ancien premier sujet, et si elle en avait eu, certes, elle aurait gardé toutes les apparences. « Mon cher, nous disait doctoralement sur le boulevard Dubruel, Il n'y a rien de tel que de vivre avec une de ces femmes qui, par l'abus, sont revenues des passions. Les femmes comme Claudine ont mené leur vie de garçon, elles ont des plaisirs par-dessus la tête, et font les femmes les plus adorables qui se puissent désirer. Sachant tout, formées et point bégueules, faites à tout, indulgentes. Aussi prêchais-je à tout le monde d'épouser un reste de cheval anglais. Je suis l'homme le plus heureux de la terre. » Voilà ce que me disait Du Bruel à moi-même en présence de Bixiou. « Mon cher, me répondit le dessinateur, il a peut-être raison d'avoir tort. » 8 jours après, Du Bruel nous avait prié de venir dîner avec lui un mardi. Le matin, j'allais le voir pour une affaire de théâtre, un arbitrage qui nous était confié par la commission des auteurs dramatiques. Nous étions forcés de sortir. Mais auparavant, il entra dans la chambre de Claudine, où il n'entre pas sans frapper. Il demanda la permission. « Nous vivons en grand seigneur, dit-il en souriant. Nous sommes libres, chacun chez nous. » Nous fûmes admis. Du Bruel dit à Claudine, « J'ai invité quelques personnes aujourd'hui. » « Vous voilà ? » s'écria-t-elle. « Vous invitez du monde sans me consulter ? Je ne suis rien ici. Tenez, me dit-elle en me prenant pour juge par un regard. Je vous le demande à vous-même. Quand on a fait la folie de vivre avec une femme de ma sorte, car enfin, j'étais une danseuse de l'opéra. Oui, pour qu'on l'oublie, je ne dois jamais l'oublier moi-même. Eh bien, un homme d'esprit, pour relever sa femme dans l'opinion publique, s'efforcerait de lui supposer une supériorité, de justifier sa détermination par la reconnaissance de qualités éminentes chez cette femme. Le meilleur moyen pour la faire respecter par les autres est de la respecter chez elle, de l'y laisser maîtresse absolue. Ah bien, il me donnerait de l'amour-propre à voir combien il craint d'avoir l'air de m'écouter. Il faut que j'aie 10 fois raison pour qu'il me fasse une concession. » Chaque phrase ne passait pas sans une dénégation faite par geste de la part de Du Bruel. « Oh non, non » reprit-elle vivement en voyant les gestes de son mari. « Du Bruel, mon cher, moi qui toute ma vie, avant de vous épouser, ai joué chez moi le rôle de reine, je m'y connais. Mes désirs étaient épiés, satisfaits, comblés. Après tout, j'ai 35 ans, et les femmes de 35 ans ne peuvent pas être aimées. Oh, si j'avais 16 ans et ce qui se vend si cher à l'opéra, quelles attentions vous auriez pour moi, monsieur Du Bruel. Je méprise souverainement les hommes qui se vantent d'aimer une femme et qui ne sont pas toujours auprès d'elle aux petits soins. Voyez-vous, Du Bruel, vous êtes petit et chafouin, vous aimez à tourmenter une femme. Vous n'avez qu'elle sur qui déployer votre force. Un Napoléon se subordonne à sa maîtresse, il n'y perd rien. Mais vous autres, vous ne vous croyez plus rien alors, vous ne voulez pas être dominé. 35 ans, mon cher, me dit-elle, l'énigme est là. Allons, il dit encore non, vous savez bien que j'en ai 37. Je suis bien fâchée, mais allez dire à tous vos amis que vous les mènerez au rocher de Cancale. Je pourrais leur donner à dîner, mais je ne le veux pas, ils ne viendront pas. Mon pauvre petit monologue vous gravera dans la mémoire le précepte salutaire du « chacun chez soi » qui est notre charte, ajouta-t-elle en riant et revenant à la nature folle et capricieuse de la fille d'opéra. « Eh bien, oui, ma chère petite Minette, dit Du Bruel. Là, là, ne vous fâchez pas, nous savons vivre. » Il lui baisa les mains et sortit avec moi, mais furieux. De la rue de la Victoire au boulevard, voici ce qu'il me dit. Si toutefois les phrases que souffre la typographie parmi les plus violentes injures peuvent représenter les atroces paroles, les venimeuses pensées qui ruisselèrent de sa bouche comme une cascade échappée de côté dans un grand torrent. Mon cher, je quitterai cette infâme danseuse ignoble, cette vieille toupie qui a tourné sous le fouet de tous les airs d'opéra. « Cette guenipe, cette guenon de Savoyard. Oh, toi qui t'es attaché aussi à une actrice, mon cher, que jamais l'idée d'épouser ta maîtresse ne te poursuive. Vois-tu, c'est un supplice oublié dans l'enfer de Dante. Tiens, maintenant, je la battrai, je la cognerai, je lui dirai son fait. Poison de ma vie, elle me fait aller comme un valet de volée. » Il était sur le boulevard et dans un état de fureur tel que les mots ne sortaient pas de sa gorge. « Je chausserai mes pieds dans son ventre !»« À propos de quoi ?» lui dis-je. « Mon cher, tu ne sauras jamais les mille myriades de fantaisies de cette gaupe. Quand je veux rester, elle veut sortir. Quand je veux sortir, elle veut que je reste. Ça vous débagoule des raisons, des accusations, des syllogismes, des calomnies, des paroles à rendre fou. Le bien, c'est leur fantaisie. Le mal, c'est la nôtre. Foudroyez-les par un mot qui leur coupe leur raisonnement. Elles se taisent et vous regardent comme si vous étiez un chien mort. Mon bonheur, il s'explique par une servilité absolue, par la vassalité du chien de basse-cour. Elle me vend trop cher le peu qu'elle me donne. Oh, diable, je lui laisse tout et je m'enfuirai dans une mansarde. Oh, la mansarde et la liberté. Voici 5 ans que je n'ose faire ma volonté. » Au lieu d'aller prévenir ses amis, Curcy resta sur le boulevard, arpentant l'asphalte depuis la rue de Richelieu jusqu'à la rue du Mont-Blanc, en se livrant aux plus furieuses imprécations et aux exagérations les plus comiques. Il était dans la rue en proie à un paroxysme de colère qui contrastait avec son calme à la maison. Sa promenade servit à user la trépidation de ses nerfs et la tempête de son âme. Vers 2 heures, dans un de ses mouvements désordonnés, il s'écria « Ces damnées femelles ne savent ce qu'elles veulent. Je parie ma tête à couper que si je retourne chez moi lui dire que j'ai prévenu mes amis et que nous dînons au rocher de Cancale, cet arrangement demandé par elle ne lui conviendra plus. Mais, me dit-il, elle aura décampé. Peut-être y a-t-il là-dessous un rendez-vous avec quelque barbe de bouc. Non, car elle m'aime à fond. » « Ah, madame, dit Nathan en regardant d'un air fin la marquise qui ne put s'empêcher de sourire. « Il n'y a que les femmes et les prophètes qui sachent faire usage de la foi. » « Du Bruel, reprit-il, me ramena chez lui. Nous y allâmes lentement. Il était 3 heures. Avant de monter, il vit du mouvement dans la cuisine. Il y entre, voit des apprêts et me regarde en interrogeant sa cuisinière. « Madame a commandé un dîner, répondit-elle. Madame est habillée, elle a fait venir une voiture. » Puis elle a changé d'avis. Elle a renvoyé la voiture en la redemandant pour l'heure du spectacle. « Eh bien !» s'écria Du Bruel. « Que te disais-je » Nous entrâmes à pas de loup dans l'appartement. Personne. De salon en salon, nous arrivâmes jusqu'à un boudoir où nous surprîmes Tullia pleurant. Elle essuya ses larmes sans affectation et dit à Du Bruel « Envoyez au rocher de Cancale un petit mot pour prévenir vos invités que le dîner a lieu ici. » Elle avait fait une de ces toilettes que les femmes de théâtre ne savent pas composer. Élégante, harmonieuse de ton et de forme, des coupes simples, des étoffes de bon goût, ni trop chères, ni trop communes, rien de voyant, rien d'exagéré, mot que l'on efface sous le mot artiste avec lequel se paient les sots. Enfin, elle avait l'air comme il faut. À 37 ans, Tullia se trouve à la plus belle phase de la beauté chez les Françaises. Le célèbre ovale de son visage était en ce moment d'une pâleur divine. Elle avait ôté son chapeau. Je voyais le léger duvet, cette fleur des fruits, adoucissant les contours moelleux déjà si fins de sa joue. Sa figure, accompagnée de 2 grappes de cheveux blonds, avait une grâce triste. Ses yeux gris étincelants étaient noyés dans la vapeur des larmes. Son nez, mince, digne du plus beau camée romain, et dont les ailes battaient, sa petite bouche, enfantine encore, son long col de reine à veines un peu gonflées, son menton rougi pour un moment par quelque désespoir secret, ses oreilles bordées de rouge, ses mains tremblantes sous le gant, tout accusait des émotions violentes. Ses sourcils agités par des mouvements fébriles trahissaient une douleur. Elle était sublime. Son mot écrasa du Bruel. Elle nous jeta ce regard de chatte, pénétrant et impénétrable, qui n'appartient qu'aux femmes du grand monde et aux femmes du théâtre. Puis elle tendit la main à du Bruel. Mon pauvre ami, dès que tu as été parti, je me suis fait 1000 reproches. Je me suis accusée d'une effroyable ingratitude, et je me suis dit que j'avais été mauvaise. Ai-je été bien mauvaise ? Me demanda-t-elle. Pourquoi ne pas recevoir tes amis ? N'es-tu pas chez toi ? Veux-tu savoir le mot de tout cela ? Eh bien, j'ai peur de ne pas être aimée. Enfin, j'étais entre le repentir et la honte de revenir quand j'ai lu les journaux. J'ai vu une première représentation aux variétés. J'ai cru que tu voulais traiter un collaborateur. Seule, j'ai été faible. Je me suis habillée pour courir après toi, pauvre chat. Du Bruel me regarda d'un air victorieux. Il ne se souvenait pas de la moindre de ses oraisons contre Tullia. « Eh bien, cher ange, je ne suis allé chez personne, » lui dit-il. « Comme nous nous entendons !» s'écria-t-elle. Au moment où elle disait cette ravissante parole, je vis à sa ceinture un petit billet passé en travers. Mais je n'avais pas besoin de cet indice pour deviner que les fantaisies de Tullia se rapportaient à des causes occultes. La femme est, selon moi, l'être le plus logique après l'enfant. Tous deux, ils offrent le sublime phénomène du triomphe constant de la pensée unique. Chez l'enfant, la pensée change à tout moment, mais il ne s'agite que pour cette pensée, et avec une telle ardeur que chacun lui cède, fasciné par l'ingénuité, par la persistance du désir. La femme change moins souvent, mais l'appeler fantasque est une injure d'ignorant. En agissant, elle est toujours sous l'empire d'une passion, et c'est merveille de voir comme elle fait de cette passion le centre de la nature et de la société. Tullia fut chatte, elle entortilla du Bruel. La journée redevint bleue, et le soir fut magnifique. Ce spirituel vaudevilliste ne s'apercevait pas de la douleur enterrée dans le cœur de sa femme. « Mon cher, me dit-il, voilà la vie. Des oppositions, des contrastes. » « Surtout quand ce n'est pas joué, » répondis-je. « Je l'entends bien ainsi, » reprit-il. « Mais sans ces violentes émotions, on mourrait d'ennui. Ah, cette femme a le don de m'émouvoir !» Après le dîner, nous allâmes aux variétés. Mais avant le départ, je me glissai dans l'appartement de Du Bruel. J'y pris sur une planche, parmi des papiers sacrifiés, le numéro des petites affiches où se trouvait la notification du contrat de l'hôtel acheté par Du Bruel, exigé pour la purge légale. En lisant ces mots qui me sautèrent aux yeux comme une lueur, « À la requête de Jean-François Du Bruel et de Claudine Chaffaroux, son épouse, tout fut expliqué pour moi. Je pris le bras de Claudine et j'affectai de laisser descendre tout le monde avant nous. Quand nous fûmes seuls, « Si j'étais la palferine, lui dis-je, je ne ferais jamais manquer de rendez-vous. » Elle se posa gravement un doigt sur les lèvres et descendit en me pressant le bras. Elle me regardait avec une sorte de plaisir en pensant que je connaissais la palferine. Savez-vous quelle fut sa première idée ? Elle voulut faire de moi son espion. Mais elle rencontra le badinage de la bohème. Un mois après, au sortir d'une première représentation d'une pièce de Du Bruel, il pleuvait. Nous étions ensemble, j'allais chercher un fiacre. Nous étions restés pendant quelques instants sur le théâtre, et il ne se trouvait plus de voiture à l'entrée. Claudine gronda fort Du Bruel, et quand nous roulâmes, car elle me reconduisit chez Florine, elle continua la querelle en lui disant les choses les plus mortifiantes. « Eh bien, qu'y a-t-il ? Demandai-je. Mon cher, elle me reproche de vous avoir laissé courir après le fiacre, et par-delà pour vouloir désormais un équipage. Je n'ai jamais, étant premier sujet, fait usage de mes pieds que sur les planches, dit-elle. Si vous avez du cœur, vous inventerez 4 pièces de plus par an. Vous songerez qu'elles doivent réussir en songeant à la destination de leurs produits. et votre femme n'ira pas dans la crotte. C'est une honte que j'aie à le demander. Vous auriez dû deviner mes perpétuelles souffrances depuis 5 ans que me voici mariée. »
« Je le veux bien, » répondit Du Bruel, « mais nous nous ruinerons. »
« Si vous faites des dettes, » répondit-elle, « la succession de mon oncle les paiera. »
« Vous êtes bien capable de me laisser les dettes et de garder la succession. »
« Ah, vous le prenez ainsi, » répondit-elle. « Je ne vous dis plus rien. Un pareil mot me ferme la bouche. »
Aussitôt, Du Bruel se répandit en excuses et en protestations d'amour. Elle ne répondit pas. Il lui prit les mains, elle les lui laissa prendre. Elles étaient comme glacées, comme des mains de morte. Tullia, vous comprenez, jouait admirablement ce rôle de cadavre que jouent les femmes afin de vous prouver qu'elles vous refusent leur consentement à tout, qu'elles vous suppriment leur âme, leur esprit, leur vie, et se regardent elles-mêmes comme une bête de somme. Il n'y a rien qui pique plus les gens de cœur que ce manège. Elles ne peuvent cependant employer ce moyen qu'avec ceux qui les adorent. « Croyez-vous, me dit-elle de l'air le plus méprisant, qu'un comte aurait proféré pareille injure, quand même il l'aurait pensé? Pour mon malheur, j'ai vécu avec des ducs, avec des ambassadeurs, avec des grands seigneurs, et je connais leurs manières. Comme cela rend la vie bourgeoise insupportable. Après tout, un vaudevilliste n'est ni un Rastignac, ni un Rhétoré. » Du Bruel était blême. 2 jours après, Du Bruel et moi, nous nous rencontrâmes au foyer de l'opéra. Nous fîmes quelques tours ensemble, et la conversation tomba sur Tullia.
« Ne prenez pas au sérieux, me dit-il, mes folies sur le boulevard, je suis violent. »
Pendant 2 hivers, je fus assez assidu chez Du Bruel, et je suivis attentivement les manèges de Claudine. Elle eut un brillant équipage, et Du Bruel se lança dans la politique. Elle lui fit abjurer ses opinions royalistes. Il se rallia, fut replacé dans l'administration de laquelle il faisait autrefois partie. Elle lui fit briguer les suffrages de la garde nationale. Il y fut élu chef de bataillon. Il se montra si valeureusement dans une émeute qu'il eut la rosette d'officier de la Légion d'honneur. Il fut nommé maître des requêtes et chef de division. L'oncle Chafaroux mourut, laissant 40 000 livres de rente à sa nièce, les 3/4 de sa fortune environ. Du Bruel fut nommé député. Mais auparavant, pour n'être pas soumis à la réélection, il se fit nommer conseiller d'État et directeur. Il réimprima des traités d'archéologie, des œuvres de statistique et 2 brochures politiques qui devinrent le prétexte de sa nomination à l'une des complaisantes académies de l'Institut. En ce moment, il est commandeur de la Légion, et s'est tant remué dans les intrigues de la Chambre qu'il vient d'être nommé pair de France et comte. Notre ami n'ose pas encore porter ce titre. Sa femme seule met sur ses cartes la comtesse Du Bruel. L'ancien vaudevilliste a l'ordre de Léopold, l'ordre d'Isabelle, la croix de Saint-Vladimir, 2e classe, l'ordre du mérite civil de Bavière, l'ordre papal de l'éperon d'or. Enfin, il porte toutes les petites croix, outre sa grande. Il y a 3 mois, Claudine est venue à la porte de la Palferine dans son brillant équipage armorié. Du Bruel est petit-fils d'un traitant anobli sur la fin du règne de Louis XIV. Ses armes ont été composées par Chérin, et la couronne comtale ne messied pas à ce blason, qui n'offre aucune des ridiculités impériales. Ainsi, Claudine avait exécuté, dans l'espace de 3 années, les conditions du programme que lui avait imposé le charmant, le joyeux la Palferine. Un jour, il y a de cela 1 mois, elle monte l'escalier du méchant hôtel où loge son amant et grimpe dans sa gloire. Mise comme une vraie comtesse du faubourg Saint-Germain, à la mansarde de notre ami. La Palferine voit Claudine et lui dit « Je sais que tu t'es fait nommer père, mais il est trop tard, Claudine. Tout le monde me parle de la croix du Sud. Je veux la voir. »«
Je te l'aurai, dit-elle.
Là-dessus, la palefurine partit d'un rire homérique.
Décidément, reprit-il, je ne veux pas pour maîtresse d'une femme ignorante comme un brochet, et qui fait de tels sauts de carpe qu'elle va des coulisses de l'opéra à la cour, car je te veux voir à la cour citoyenne.
Qu'est-ce que la Croix du Sud ?
Me dit-elle d'une voix triste et humiliée. Saisie d'admiration pour cette intrépidité de l'amour vrai qui, dans la vie réelle comme dans les fables les plus ingénues de la féerie, s'élance dans des précipices pour y conquérir la fleur qui chante ou l'œuf du roc, je lui expliquai que la Croix du Sud était un amas de nébuleuses, disposées en forme de croix, plus brillant que la Voie lactée, et qui ne se voyait que dans les mers du Sud.
« Eh bien, lui dit-elle, Charles, allons-y !»
Malgré la férocité de son esprit, la palefurine eut une larme aux yeux. Mais quel regard et quel accent chez Claudine! Je n'ai rien vu de comparable dans ce que les efforts des grands acteurs ont eu de plus extraordinaire, au mouvement par lequel, en voyant ses yeux, si durs pour elle, mouillés de larmes. Claudine tomba sur ses deux genoux et baisa la main de cette impitoyable la palefurine. Il la releva, prit son grand air, ce qu'il nomme l'air rusticoli, et lui dit « Allons, mon enfant, je ferai quelque chose pour toi. Je te mettrai dans mon testament. » « Eh bien, dit en finissant Nathan à madame de Rochefide, je me demande si Du Bruel est joué. Certes, il n'y a rien de plus comique, de plus étrange, que de voir les plaisanteries d'un jeune homme insouciant faisant la loi d'un ménage, d'une famille, ses moindres caprices y commandant, y décommandant les résolutions les plus graves. Le fait du dîner s'est, vous comprenez, renouvelé dans mille occasions et dans un ordre de choses importantes. Mais sans les fantaisies de sa femme, Du Bruel serait encore de Curcy, un vaudevilliste parmi 500 vaudevillistes, tandis qu'il est à la chambre des pairs.
« Vous changerez les noms, j'espère, »
dit Nathan à madame de la Baudraye.
« Je le crois bien, je n'ai mis que pour vous les noms au masque, mon cher Nathan, »
dit-elle à l'oreille du poète.
« Je sais un autre ménage, où c'est la femme qui est Du Bruel. »
« Et le dénouement ?»
demanda Lousteau, qui revint au moment où madame de la Baudraye achevait la lecture de sa nouvelle.
« Je ne crois pas au dénouement, » dit madame de la Baudraye. « Il faut en faire quelques-uns de beaux pour montrer que l'art est aussi fort que le hasard. Mais, mon cher, on ne relit une œuvre que pour ses détails. »
« Mais il y a un dénouement, » dit Nathan.
« Eh, lequel ?»
demanda madame de la Baudraye. « La marquise de Rochefide est folle de Charles-Édouard. Mon récit avait piqué sa curiosité.
« Oh, la malheureuse !» s'écria madame de la Baudraye.
« Pas si malheureuse !» dit Nathan.
Car Maxime de Trailles et la palefurine ont brouillé le marquis avec madame Schontz et vont raccommoder Arthur et Béatrix. »